écoute sur RCN, Christophe Chevardet.
Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue dans I Feel Good. I Feel Good cette semaine, ça va être dense puisqu'il va y avoir deux I Feel Good avec deux femmes, madame, mesdemoiselles, messieurs. Aujourd'hui, c'est une artiste multifacette, pleine de talent, pleine d'expression. Elle nous vient de son île, l'île Maurice, elle va nous en parler. Je vous donne le nom dans quelques instants. Et puis ma deuxième invitée, c'est une autre femme, artiste aussi sûrement, avec d'autres talents. C'est Madame la Préfet. On la reçoit mercredi dans I Feel Good. Mais pour aujourd'hui, voyage dans les arts, voyage dans l'île Maurice, voyage dans l'émigration, voyage dans l'adoption avec Libera.
So good, so good, I got you.
Ah oui, quelle semaine. Je suis très heureux de vous avoir toutes les deux, séparément, mais toutes les deux, pour une semaine riche de rencontres. Bonjour Libera.
Bonjour Christophe.
Libera, effectivement, je le disais, tu nous viens de l'île Maurice. On va dresser le cadre de ton arrivée, si tu veux bien.
Oui.
On va quand même dire deux mots de l'artiste que tu es avant. L'artiste multifacette, tu peux en dire deux mots ?
Alors effectivement, multifacette, c'est joliment dit, puisque toute forme d'art qui peut exprimer des émotions, des combats, je me les approprie. Que ce soit la danse, le chant, l'écriture, le théâtre, la peinture, la sculpture, enfin voilà, tout ce qui est création. Donc je travaille mes créations avec cette vision un peu globale, et j'ai mené, on va dire, c'est ça qui a rythmé ma vie, hein, depuis toute petite, et qui continue de rythmer ma vie au quotidien, et qui me fait grandir chaque jour au fur et à mesure des rencontres et des découvertes que je fais.
Pourquoi cette appétence pour le multifacette, justement, multi-expression ?
Bonne question.
Parce que c'est indispensable chez toi.
C'est dans mon ADN, je pense. C'est vraiment quelque chose qui me caractérise depuis vraiment depuis ma naissance, depuis toute petite. J'ai toujours aimé dessiner, peindre, chanter, faire de la musique, chanter. Je me suis jamais posé la question de savoir combien de formes d'art je développais. C'est comme ça, je peux pas, c'est mon cerveau, mon corps fonctionne comme ça.
Avec un message, avec une volonté, avec une obsession peut-être dans l'expression ?
Oui, alors tous les artistes sont très obsessionnels, hein, on sait, on redit éternellement. Hein.
J'osais pas le mot.
Oui, non mais il faut l'assumer, hein, pleinement. Alors quand on est petit, quand j'étais petite, je me disais pas j'ai un but, j'ai un combat. J'exprimais des sensations, des choses que je voyais, des perceptions, des odeurs, des émotions. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu l'expression plus d'un combat ou de comme un pour faire un exutoire en fait de certaines émotions que je voyais chez mes camarades ou chez dans le monde des adultes quand j'étais vraiment petite. Et au fur et à mesure, je me les suis appropriées. J'ai parlé de ce que moi je traversais, mais aussi du monde dans lequel on est, qui est absolument incroyable. Hein. Donc il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à exprimer que c'est une histoire sans fin.
Alors, d'où vient ce nom de Libera ?
Alors Libera, alors il y a plusieurs origines de Libera. Déjà pour moi c'est l'expression vraiment même de la libération. Voilà, se libérer, parce que libera en latin ça veut dire l'action de se libérer.
Alors je faisais justement le lien avec ce que tu viens de dire à l'instant, c'est-à-dire que ce nom vient de et cette appétence, ce goût, cet ADN pour multifacette de l'expression, est-ce qui vient de cette volonté de Libera?
Tout à fait. Aussi, je pense que c'est un tout. C'est-à-dire que la liberté, bon, qu'est-ce que la liberté ? J'ai pas toutes les réponses, loin de là. Mais en tout cas, on a la liberté de se créer sa propre liberté. Et je pense que Libera, donc mon nom, qui fait aussi un petit clin d'œil à Mozart, hein, puis à cette œuvre que j'aime beaucoup, le Liberame. Voilà. On appelle tous à une forme de libération, mais en premier lieu de soi-même. Et pour ça, il faut prendre les armes qu'on a chacun à l'intérieur de nous-mêmes et se libérer avec ça. Moi, je me libère avec la musique, avec l'artistique, des carcans dans lesquels je peux être et dans lesquels on peut tous être, par nos vies, par notre conditionnement, par le fait d'avoir une vie, une fin, des espoirs, des déceptions. Voilà, il faut se libérer.
Alors, se libérer, pourtant, ça peut être une inspiration, c'est pourtant pas toujours facile.
Ah,
et si je prends un petit peu le parcours de ta vie, 1983, c'est la première date importante dans ta vie.
Oui.
C'est celle de ton arrivée en France, en métropole, à Nancy. C'est le fruit d'un peuple qui s'est libéré.
Tout à fait.
Et pourtant, ça a conduit à la famine et ça a conduit à ce que tu sois adopté.
Oui, c'est-à-dire quand on est chacun dans l'histoire. L'histoire nous crée. Après, on peut agir dans l'histoire, mais c'est le temps qui le dira. En tout cas, moi, j'ai pris conscience vraiment, et surtout ces derniers temps, que j'étais issue vraiment d'une histoire puissante et universelle. C'est-à-dire que c'était la période où toutes les anciennes colonies se révoltaient. Contre, c'était les Anglais qui occupaient l'île Maurice en tant que colons, hein, puisqu'il faut dire les choses clairement. Depuis bien longtemps, il y a eu la France avant, mais ça se passait mieux. Et ça a été une période de crise dans beaucoup de d'outre-mer. Et effectivement, le peuple mauricien, issu d'un grand métissage, et notamment les esclaves mauriciens, se sont révoltés. Guidé, et c'est ça qui est très beau par contre, c'est par Kaya, qui est vraiment la star, le héros, puisqu'il est décédé dans cette bataille. Son arme, c'était la musique. Et ils l'ont suivi, et les Mauriciens ont fini par avoir leur indépendance officiellement en 76. Donc forcément, ça a donné lieu à une grande famine, à une grande détresse ensuite, qui a donné un contexte dans lequel tous les enfants qui sont nés après ont souffert de la famine, les familles ont dû s'organiser, enfin ça a été vraiment terrible, et du coup ma famille a dû prendre un choix vraiment compliqué et qui leur a arraché vraiment les tripes, hein. C'est de me mettre à l'orphelinat, de me confier, alors c'était provisoire dans un premier temps, alors j'ai voyagé entre l'orphelinat, ma famille, l'hôpital, puisque forcément problèmes médicaux dus à la famine, et puis finalement il y a eu une proposition d'adoption par une Nancéenne. Et donc, ça a été soumis à l'orphelinat. Et puis, j'ai ma maman actuelle, ma maman adoptive, est venue à l'île Maurice me chercher. Ça a été un vrai combat, puisque je n'étais pas adoptable. Voilà, puisque trop fragile.
À cause de ta santé.
À cause de ma santé.
Tes parents étaient d'accord ?
Alors, c'est ça qui est très, très compliqué aussi. C'est que la famille, en fait, c'est comme un conseil familial. Ma maman, on va dire biologique, mais qui est ma maman, parce que pour moi, j'ai deux mamans, hein. Donc, je les appelle toutes les deux mamans. Donc, ma maman mauricienne ne voulait pas que je sois adoptée. Et elle était elle-même en difficulté médicale, souffrant d'un handicap. Et plusieurs fois, elle m'a repris avec elle, mais c'était pas gérable. Et elle a même essayé de travailler dans l'orphelinat où j'ai été.
Pour être avec toi.
Pour rester proche de sa fille. Donc ça a été vraiment terrible comme décision, mais c'est une décision qui m'a sauvé la vie. Parce que les médecins français se sont engagés par papier devant un magistrat pour me prendre vraiment en charge médicalement. Et c'est ça qui a autorisé mon adoption. Donc ça a pris du temps, hein. Ma maman adoptive et ma maman biologique se sont rencontrées, et elles se sont confiées beaucoup de choses. Voilà, donc c'est une histoire de deux femmes qui se sont retrouvées il y a quelques années encore, et qui sont
quelques
très liées.
Quelques années, c'est-à-dire?
Et la dernière fois qu'elles se sont vues, c'était il y a 5 ans.
D'accord. Et la première fois qu'elles se sont vues?
C'était
à l'adoption ou...
Alors, la première fois, c'était au moment de l'adoption.
Ouais, elles se sont vues là.
Voilà, et elles se sont échangées des mots. Donc Fabienne, ma maman de sang, lui a dit « Je te confie ma vie, je te confie ma fille ». Et Marianne, ma maman adoptive et de cœur, lui a dit « Bien sûr, et ça, je ferai tout ce que je peux ». Voilà, donc c'est très beau, je trouve. C'est un acte d'amour dans des conditions extrêmement difficiles. Et ce lien, elles l'ont gardé, hein. Voilà, et du coup, j'ai pu retrouver bien plus tard cette maman que j'ai gardée dans mon cœur, avec toutes les questions aussi sur par rapport à mon papa, parce qu'on n'est pas comme ça, voilà. Alors là, c'était plus douloureux, puisque mon papa, en fait, a commencé les recherches pour retrouver sa fille, en même temps que moi, mais ça, je ne le savais pas. Et quand je l'ai enfin retrouvé, enfin, en tout cas, j'ai eu tous les documents pour pouvoir partir à l'île Maurice, il est décédé. Donc ça, c'est la grande souffrance, ma grande blessure, on va dire. Voilà.
Dans Libera, il y a quand même ce lien aussi. La liberté, elle a été permise parce qu'il y a eu ce don d'amour, pas toujours voulu au début, mais
oui.
Face à la réalité, je te confie ma vie, je te confie ma fille. Hein. Mm. C'est par ce don qu'il y a eu cette liberté. Il y a eu d'autres dons aussi que tu as découvert plus tard, celui de, bah justement, artistique.
Eh bien, il paraît qu'à l'orphelinat, je chantais tout le temps. Voilà, soit je pleurais, soit je chantais. Bon, il valait mieux que je chante. Donc j'avais déjà...
Ça dépend.
Oui, bon, après je peux pleurer de joie aussi. Hein.
Voilà.
Mais ça, il paraît que ça, c'était très bruyant quand j'étais petite, quand je pleurais. Donc les gens préféraient que je chante. Mais je chantais déjà tout le temps à l'orphelinat. Et puis quand je suis arrivée en France, j'ai eu un choc thermique, ça c'est sûr. Mais je me souviens très bien quand on est arrivé chez maman, la première chose que j'ai vue... C'est un piano. Je n'avais jamais vu de piano.
Donc tu avais 3 ans.
Voilà. Et là, j'ai vu le piano. Maman m'a laissé aller. J'ai tout de suite touché les notes. Et ça a été un coup de foudre. Et avant même de parler, parce qu'il faut savoir que je comprenais tout ce qu'on me disait, mais il y avait aussi le choc de la langue, le choc psychologique. Je ne parlais pas. Je chantais. Et donc ce piano m'a permis d'exprimer et tout doucement de retrouver la parole. Tout ce que j'avais traversé. Donc, très vite, tout de suite, cours de piano, enfin, voilà.
Alors, très vite, tu ne parlais pas, mais très vite, tu as... Très vite, ça, c'est... La parole est venue au bout de combien de temps?
Alors ça, il faudrait demander à ma maman, mais ça a été long, puisque...
Plusieurs mois.
Plusieurs mois. Plusieurs mois, puisqu'on a été voir des
spécialistes.
Voilà, mais en même temps, j'étais tellement expressive par ailleurs.
D'accord.
Et puis, j'ai été honnête avec elle, j'avais pas envie de parler. J'avais pas envie de parler, je comprenais parfaitement ce qu'on me disait.
Oui.
J'aurais pu parler, répondre en français, mais j'étais vraiment, je pense qu'il y a l'état de choc. Et puis d'abord comprendre, peut-être analyser. Et la musique me permettait justement d'adopter ce nouveau mode de vie et de me faire en fait à ma nouvelle vie. Parce que c'est quand même violent. Hein.
Alors voilà, justement, la question que je ne t'ai pas posée, parce qu'on a parlé des mamans, mais on n'a pas parlé de toi. Toi, à 3 ans, comment tu percevais qu'est-ce que tu percevais? Comment tu percevais? Qu'est-ce que tu vivais? Qu'est-ce que tu ressentais?
Et
comment
tu
en es arrivé à ce choc de la parole?
Eh bien, c'est tout un... Alors, je m'en souviens très très bien.
Oui, c'est ça. Hein. Je à me 3 souviens... ans pour toi.
Oui, alors c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. C'est-à-dire que quand on est en mode survie, ce qui a été mon cas dès ma naissance, le cerveau, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on est des animaux, hein, on est des créatures, on doit survivre. Le cerveau se conditionne pour tout retenir et se mettre en mode vivre. Et du coup, je me souviens très bien de l'orphelinat. Voilà, je me souviens de sœur Edith, hein, puisque c'était des religieuses qui tenaient l'orphelinat. Ça a été les premiers gestes vraiment de tendresse que j'ai eu avec sœur Edith. Et puis... Et je me souviens que tous les soirs, elle me consolait parce que je pleurais beaucoup et qu'elle me disait qu'une maman allait venir me chercher. Et ça me rassurait énormément. Donc, elle me lisait les cartes postales. Voilà. Et puis, la fameuse maman est arrivée, mais je l'attendais de pied ferme. Hein. Celle-là, elle était pour moi parce que je crois que personne n'imagine, à moins de l'avoir vécu, la vie dans un orphelinat. Et il y a des choses qui sont vraiment très, très difficiles. Il y a des choses qui sont absolument belles. Moi, j'ai toujours vu la beauté, malgré les horreurs qu'il pouvait y avoir.
C'était quoi la beauté ?
La beauté, c'est l'amour. La beauté, c'est l'amour. La bienveillance des sœurs qui étaient complètement débordées par tous ces enfants qu'on leur laissait comme ça devant la porte. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais un peu la chouchoute de sœur Edith. Elle m'a pris sous ses ailes blanches. Elle m'a enveloppée d'amour et je la suivais partout. Voilà.
Et alors, la musique était là déjà, tu le disais,
oui.
Au départ, et à l'arrivée en France.
Oui, tout à fait. Bah, c'est-à-dire que l'île Maurice, les Mauriciens, c'est un peuple chantant. Mais vraiment, c'est un peuple aimant, chantant, résilient et positif. Et ça chante tout le temps. J'ai été bercée vraiment dans la musique. Donc j'avais cette musique, mais différente. Et quand je suis arrivée, j'ai découvert une autre musique.
C'était Libera sur RCN.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
On rentre dans l'univers de Libera avec ce titre. Je ne sais pas si on pourra l'écouter sur YouTube, qu'on me fascine.
Oui,
si,
tout à fait.
Si, ça sera quand même disponible. Parce que
Il est déjà disponible.
Ah, c'est quoi le titre? Comme ça, les gens pourront l'écouter.
Alors, ce titre s'appelle Bienvenue dans mon opéra. Donc, il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Libera officiel et vous tomberez sur tous les titres qui ont été tournés en clip. On les met au fur et à mesure et donc ça c'est Bienvenue dans mon opéra qui ouvre officiellement le premier spectacle des Chroniques de Libera partie 1.
Alors, deux mots m'interpellent. Opéra, tu es dans cet univers de l'opéra.
Oui.
Pourquoi et puis chronique, pourquoi des chroniques? Qu'est-ce que tu vas nous raconter dans quelle langue et avec quel mode d'expression? Voilà, tu as moins de deux minutes pour répondre à tout ça.
Tic-tac, tic-tac. Alors, l'opéra, eh bien, tout simplement par le fait que quand je suis arrivée en France, effectivement, j'ai découvert tout de suite l'opéra. Par le biais de Patrick Dupont, que j'ai vu danser, qui était outre mon professeur, un de mes professeurs, mais qui m'a fait rentrer au conservatoire. Mais j'ai découvert très rapidement la scène de l'opéra, aussi à Nancy. Donc j'ai été fascinée par ce lieu. Et l'opéra, c'est la forme d'expression, pour moi, de l'art total. Où il y a vraiment tout, du costume à l'orchestre. Et ça permet d'exprimer une trame, en fait, qui raconte une histoire. Et je trouve que la trame, le livret d'opéra tel qu'il est écrit, c'est ce qui me correspond le plus. Après, j'ai fait des études aussi classiques. Mais c'est ce qui permet d'exprimer le plus une histoire. Et j'arrive à la suite. Donc les chroniques, pour moi les chroniques, c'est l'écriture, ça raconte une histoire Et c'est en plusieurs chapitres, et là, c'était le chapitre 1, là, on va présenter le chapitre 2 le 13 avril. Donc, c'est l'écriture, c'est comme un livre. Ça, voilà, d'ailleurs, je pense que je le sortirai en livre, enfin, pas tout de suite, hein. Pour l'instant, c'est sur scène, mais c'est vraiment une histoire, et qui se cale sur un livret d'opéra. Et opéra fantastique, parce que c'est un univers fantastique, épique, chevaleresque, avec tout l'imaginaire, et en même temps très, très actuel.
Et un peu atemporel.
Oui, c'est ça.
Ou de plusieurs temps.
Oui. Alors là, c'est vrai que...
On voyage à travers le temps.
Tout à fait. On passe dans des sas. Oui, c'est ça. Bah, en fait, on rentre dans ma tête.
Moi, j'ai eu du mal à le définir, en fait. J'ai un peu travaillé, j'ai eu du mal à trouver des mots.
Personne n'arrive à le définir.
Ah, ça me rassure.
Alors, sois rassuré, parce que vraiment, ça, c'est le challenge. Et je crois qu'il ne faut plus essayer peut-être de le définir.
Mais comment on donne envie de venir écouter Libera, écouter, voir, respirer Libera? Comment on donne envie?
Il faut venir. Mais en fait, je pense que le plus simple, c'est de, effectivement, par les réseaux, par YouTube, par ce qui est mis en ligne.
Mais c'est pas ça.
On touche les choses de loin.
De loin.
Voilà. Oui. Mais vraiment pour venir au cœur.
Oh, j'ai regardé encore un truc, là, récemment. Tu vois, effectivement, c'est pas ça.
Oui, il faut vraiment venir.
Je t'ai vu
voilà.
Sur scène,
oui.
À l'Axou, une visite, troisième personne de l'État, quatrième. C'était une visite politique, et puis on arrive là, et on arrive dans un autre monde.
Oui, c'est ça.
Et en même temps, ce monde-là, dialogue avec ce monde-là.
Mais oui, ah, mais
ce
moi,
monde
je suis...
d'aujourd'hui.
C'est
Pardon.
Ça.
Voilà.
Mais c'est comme ça que moi je le vis. C'est-à-dire que moi je suis une femme du monde. Je suis bien dans le monde. Et pourtant, je suis ailleurs, tout en étant dans le monde. Et j'essaye d'exprimer des choses qui servent à chacun, à moi-même, certes, mais aussi à chacun. Et c'est vrai que pour comprendre vraiment. Ce que je fais et qui je suis, et puis il n'y a pas que moi, parce qu'il y a toute une équipe, il faut venir au spectacle. C'est là qu'on, comme tu dis, hein, on touche du doigt, enfin c'est même pas, on est dedans, on est plongé dedans, donc le 13 là, il faut venir. Hein.
Alors pour respirer un petit peu Libera, je vais revenir aux dates, ça va nous aider quand même en
oui,
fait. Hein.
Oui.
J'avoue que j'ai dû préparer un peu l'émission avec toi, ça m'a aidé à mieux comprendre l'univers. 1983, tu me dis Arras, et tu me dis aussi le prix Blaise Pascal. Explication.
Alors, Arras, alors j'étais en classe de composition. Mon maître de composition était Pierre Tillois, qui est auteur-compositeur et qui a une carrière internationale. On a eu la chance de l'avoir au Conservatoire de Nancy pendant 3 ans. Et vraiment, il nous a tous portés, plus particulièrement moi, dans l'écriture. Approfondir un petit peu tout ce bazar, on va dire, dans ma tête, dans mon écriture, enfin voilà, hein, et de tout recentrer avec la rigueur, le travail, la propreté vraiment de l'écriture à la chandelle limite. Hein. Et puis, c'est par ce biais-là que j'ai été sollicitée pour proposer une œuvre qui avait été sollicitée par les solistes de l'opéra de Détroit, l'ambassadeur
aux
Chamber,
États-Unis, hein,
voilà,
bien, voilà.
Au State, yes, qui, pour leur tournée européenne, dont une étape importante à Arras, puisqu'ils célébraient Cyrano de Bergerac, écrire, donc le défi que m'a donné mon professeur de composition, écris-moi une œuvre pour de Cyrano de Bergerac, voilà, de tant de minutes, pour violon, violoncelle, piano, et voilà. Donc ça a commencé comme ça, et j'avais pas beaucoup d'espoir dans le sens où je me suis dit c'est quand même l'opéra de Détroit, enfin moi
ouais.
Je l'ai écrit de tout mon cœur, j'ai plongé dans Cyrano, que j'aime beaucoup, mais je le connaissais plus côté pièce de théâtre, mais la vraie vie de Cyrano, et pourquoi Arras, la bataille d'Arras et tout ça, et j'ai écrit cette œuvre. Et puis, à ma grande surprise, mais vraiment à ma grande surprise, elle a matché. Elle a été, ils ont reçu donc la partition aux États-Unis. Et ils l'ont sélectionné. Donc ça a été on m'a payé le billet de train et l'hôtel et tout, je savais pas du tout où j'allais. Je me suis retrouvée à Arras, donc cette ville qui reste dans mon cœur, au Grand Théâtre d'Arras, et j'ai rencontré donc les Américaines, puisque c'était des femmes, et vraiment super, parce que elles m'ont tout de suite dit ah, elles ont pris ma musique, elles ont adoré, elles ont compris. Et là je me suis dit mais comment ça se fait que souvent on comprend pas forcément où je veux en venir, ceci, cela. Là, les Américains, sans me rencontrer, sans rien du tout, m'ont compris. Question. Voilà. Et du coup, elles ont joué ma musique. Moi, j'étais, donc, cette soirée, je m'étais fait belle. Et je me suis mise au milieu du public, qui ne me connaissait absolument pas. Donc, c'est terrible. Parce que le moment où la pièce commence à être jouée, c'est dans un programme avec des grandes œuvres et tout. On se dit, si les voisins à côté de moi disent, mais c'est quoi ça?
C'est nul. Voilà, c'est
là, on entend, ils savent pas qu'ils ont à côté d'eux la compositrice. Et donc, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Hein. C'était très, très puissant. Et puis, j'ai entendu des choses belles, en fait. Alors, ça m'a beaucoup émue. Et je souriais, et quand j'ai été appelée sur scène à la fin, et qu'ils ont compris que c'était moi, j'ai vu leur choc, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai trébuché, parce que bon, après je trébuche hein, des fois quand je monte les marches sur scène, mais c'est comme ça. Mais là c'était l'émotion, j'ai trébuché, et voilà, une rencontre humaine incroyable et musicale. Donc c'est un temps vraiment fort, qui m'a confortée dans le fait qu'il ne faut rien lâcher.
Troisième date importante, mais qui correspond à un deuxième rencontre qui va forger les valeurs, forger le combat, nourrir le combat, c'est 2021, un film.
Oui, alors un film. Alors le film, effectivement, est sorti en 2021. Moi, je l'ai découvert l'année dernière. C'est le film qui s'appelle Chevalier, qui retrace la vie du chevalier de Saint-Georges, Joseph Bologne. Et franchement, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Moi, je pensais que je m'endormirais au bout de 10 minutes.
Qui est Joseph Bologne?
Ah oui, alors qui est Joseph, mon Joseph?
En moins d'une minute.
En moins d'une minute, Joseph Bologne est un grand compositeur qui est né de mémoire 1709 et qui est décédé en 1791. À vérifier, en tout cas, il a participé à la Révolution. En tout cas, c'est un grand compositeur qui a été à l'époque la grande star européenne mis en avant. Il a été né d'une esclave et d'un colon qui ont fait en sorte qu'il puisse faire ses études à Paris, grand escrimeur aussi, et puis grand maître d'armes, et puis il a eu une action militaire puisqu'il était engagé dans l'armée. Donc il a, par la musique et par le combat, brillé, malheureusement effacé par l'histoire, mais remis à jour, là, depuis très peu. Et je me suis reconnue.
Il est dans ton univers?
Ah oui, complètement, tous les jours, hein, avec, voilà.
Et pour terminer, dans ton univers, il y en a une aussi, mais là, on va pas t'en développer, c'est Joséphine.
Ah là, bah Joséphine, hein, logique.
Ouais.
Alors, ma maman, quand j'étais petite, voulait m'appeler Joséphine. Pourquoi? Parce qu'elle aimait, elle adulait Joséphine Becker.
Et on fera une prochaine émission pour en parler.
Voilà, et on fera une prochaine émission pour en parler, parce que là, Joséphine, on va déborder, Christophe, on va déborder.
Merci de t'être arrêté avec nous.
Merci Christophe, merci.